Bonjour Moustapha, bonjour à tous.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Donc aujourd'hui dans ce podcast, on va parler du Ramadan. Donc,
oui.
Un sujet particulier, spécifique à une période particulière de l'année qui s'adresse aux musulmans. L'idée, c'était un petit peu de faire le tri, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, est-ce que le Ramadan est obligatoire pour les patients qui sont diabétiques?
Alors là, il faudrait poser la question à l'imam Chalgoumi, hein, parce que je suis pas du tout spécialiste en islam, mais d'après ce que je sais, ça n'est absolument pas obligatoire.
En tout cas,
quand on a une maladie chronique et quand on doit faire des injections qui doivent pénétrer le corps, on n'est pas tenu de le faire. Donc, d'un point de vue de ce que je sais, ça n'est pas obligatoire. Cependant, on peut comprendre que certains jeunes veuillent le faire pour ne pas être stigmatisés. On sait que, par exemple, à l'adolescence, il y a un très fort sentiment d'appartenance qui convient, un besoin de sentir qu'on appartient à une communauté, à une bande, à un groupe.
Bien sûr.
Et si ce groupe est un groupe religieux, il faut respecter ce besoin-là et accepter qu'ils veuillent le faire. Parce que de toute façon, ils le feront.
Oui, qu'on leur donne l'accord ou pas.
Exactement. Donc,
le mieux, c'est quand même de leur donner l'accord, entre guillemets, et les accompagner.
Cerner leurs besoins. Toujours pareil, on cerne leurs besoins, et si vraiment c'est important pour eux de le faire, il faut les accompagner et essayer de limiter les risques qu'on peut voir. Hein. Mais en tout cas, les accompagner plus que d'essayer de les contraindre ou autre. Après, il y en a qui ont besoin d'entendre que ce n'est pas obligatoire.
Certains,
ça les rassure beaucoup d'entendre que ce n'est pas obligatoire.
Parce qu'ils ne peuvent pas le faire.
Et du coup, ça les dispense. Ça les dispense de le faire. Ils sont bien contents. Et moi, j'ai un diabète, donc je ne peux pas le faire. Parfait. Aucun problème. Mais il faut être clair avec l'enfant, l'ado.
Les obliger, ni les interdire. Voilà, laisser le choix.
Voilà, quand je dis l'enfant, bien sûr, il faut que.
Bien sûr, un adolescent.
Que ce soit à la puberté.
Bien sûr, D'accord. Et du coup, un adolescent, du coup, pré-adolescent qui veut faire le Ramadan. On commencerait par quoi?
Alors déjà, le premier conseil, c'est de ne pas enchaîner tout le mois. De ne pas essayer d'enchaîner tout le mois, parce qu'on va droit à la catastrophe. Mm. C'est sûr qu'il y aura un accident qui va arriver, un accident qui peut être sérieux, soit d'hypo, soit d'hyper, enfin plutôt d'hypo. L'idée, c'est de commencer progressivement. Donc un jour par semaine, ou un jour, de
même
préférence...
Même une demi-journée pour
même
commencer.
Même une demi-journée, absolument, de préférence...
En fonction de l'âge de l'enfant, bien
c'est
sûr.
C'est ça, de préférence hors sport, hors école, donc
bien
le
sûr.
Week-end, sous surveillance, et de voir comment ça se passe, de voir comment il tolère, et ensuite d'y aller progressivement, d'augmenter au week-end, à une journée du week-end, ou à tout le week-end, et dans des zones où l'activité est habituelle, quoi.
Donc. D'accord, très bien. Et du coup, pour ces personnes, enfin pour ces adolescents qui feraient le Ramadan, par exemple, qui sont sous pompe à insuline, on retire la pompe, on garde la pompe?
Alors, l'idéal, c'est de se rendre compte. Alors, en fait, effectivement, je ne pensais pas que tu allais commencer par cette question difficile. Pourquoi elle est difficile? Parce que quand on a une pompe insuline et qu'on fait le Ramadan, les puristes te diront que, OK, je ne fais pas de bolus. Parce que la technique classique, quand on a une pompe et qu'on fait le Ramadan, c'est on garde le basal et on ne fait pas de bolus. Mmh. Donc, on pourrait dire, pas de souci, je ne mange pas, mais l'insuline circule. Les puristes te diront non, il y a une injection permanente sous-cutanée qui est contre-indiquée quand tu fais le Ramadan.
Oui, mais là, indépendamment du question religieux, là, c'est plus pour l'adolescent qui veut faire comme la famille, comme ses copains qui font le Ramadan.
C'est ce que j'allais dire. La plupart du temps, heureusement, on n'a pas affaire à des puristes.
Voilà.
Et la plupart du temps, les gens font le Ramadan avec la pompe à insuline.
D'accord.
En s'abstenant simplement de faire les bolus pendant...
Ou de le faire que quand ils vont manger le soir
sûr,
et le matin.
Voilà. Mais en tout cas, de la journée, ils font
L'idée, c'est plus de rendre le truc convivial et de partager un moment que de se...
De répondre aux besoins d'appartenance.
Une question, voilà.
Tout à fait, on est d'accord. Donc, effectivement, c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps.
D'accord.
Juste un petit parallèle pour les puristes. Le truc, c'est d'injecter la lente qui agit 24 heures. Et de, faire les, voilà, et de faire des... C'est en gros les adultes qui font ça.
Voilà.
Les adultes qui sont très tenus à respecter...
Voilà, ils font une lente le soir et
exactement.
La rapide soir et matin quand ils mangent. Et ils font rien dans la journée.
Voilà. Mais sinon, pour l'ado, entre guillemets, qu'on a ici à Montreuil, la plupart font comme tu viens de dire, ils font ça. Alors, il faut bien se rendre compte qu'il y a un risque, qu'il y a des risques d'avoir de l'insuline sans manger. C'est bien sûr le risque d'hypoglycémie. Ce risque est d'autant plus important que les jours passent. C'est-à-dire que, bien sûr, les réserves en glucides ne sont pas les mêmes en début de Ramadan et en fin de Ramadan. Mm. Mais quand on arrive à 10 jours, 15 jours de Ramadan...
À condition qu'ils aient fait tout le mois. S'ils font un jour par-ci, par-là, c'est
pas... En général, ça passe beaucoup mieux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut conseiller. Mais très vite, Les ados, quand ils ont une idée dans la tête, ils peuvent aller très loin dans leur conviction. Et dans
oui,
leur...
c'est vrai.
Ils peuvent se mettre très... quitte à se mettre en danger parfois. Donc,
dans ces cas-là... diminuer le débit de base à ce moment-là.
Exactement, il faut adapter le débit de base et vraiment être vigilant sur le risque d'hypoglycémie et pas se dire il a un débit de base, c'est comme ça et ce sera comme ça tout le temps. Non, le débit de base va changer parce que les réserves en glucides ne seront pas les mêmes. Il y a des nuits où ils mangent le matin, des nuits où ils ne mangent pas. Mmh. Il y a plein de nuits où malheureusement ils ne peuvent pas se réveiller, donc ils ne mangent pas, donc ils sautent les repas. Et donc, c'est d'autant de réserves qu'ils auront au moins.
D'accord, très bien. Et pour ceux qui ne font pas le ramadan ?
Alors, juste avant de passer oui. à cela, les hyperglycémies, il y a oui. un vrai risque aussi d'hyperglycémie, c'est quand ils mangent, justement. Donc,
le soir.
Le soir et le matin. Donc, oui. Donc, c'est important de comprendre que quand on fait le ramadan, eh ben, on peut se retrouver très facilement en hyperglycémie. Il se lève à 5 heures du matin, il mange beaucoup. Il se retrouve, il n'a pas fait assez d'insuline, il se retrouve en hyperglycémie. Il peut passer de longues heures en hyperglycémie, ce qui est extrêmement éprouvant pour lui. Parce que la plupart des... Ben, quand on est en hyperglycémie, les enfants le savent, ils ont soif, ils ont faim. Et ce n'est pas du tout agréable.
Facile à tenir, ouais.
Donc, l'insulinothérapie fonctionnelle, ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle...
Le
comptage des glucides, l'adaptation des doses, est important dans ces moments-là. Et j'ai envie de dire, avant le ramadan... Si on veut vraiment que le ramadan se passe bien, ce n'est pas le premier jour qu'il faut le préparer, mais une bonne quinzaine de jours avant, voire plus, pour bien compter les glucides, bien adapter les doses d'insuline en fonction du nombre de glucides qu'on a, pour pouvoir éviter ces longues périodes d'hyperglycémie matinale qu'on peut avoir quand on fait le ramadan.
Surtout que souvent, dans les familles, après, bien sûr, chaque famille a ses traditions et ses habitudes, mais ça peut être des repas très riches en glucides.
Exactement.
Parce qu'en fait, ils ont besoin de sucre. Ils n'ont pas eu de sucre toute la journée. Donc, des fois, on mange beaucoup de sucre, beaucoup de glucides le soir. Et ça peut faire des gros pics hyperglycémiques ou même le matin qui perdurent, en fait.
Exactement. Et parfois, ce n'est pas facile à compter aussi.
Et ce n'est pas facile à compter. Il y a des repas maison, il y a des repas familiaux.
D'où l'intérêt de s'intéresser à ce qu'il y a dans les recettes. Et au, oui. et au nom. Et
donc, à participer à la cuisine.
À participer à la cuisine, tout à fait. Et à compter les glucides que la personne qui cuisine utilise pour faire les gâteaux, pour faire les, pour faire les mets.
Donc, petit rappel, encore, je fais une petite parenthèse. On est d'accord, même si je fais les ramadans et que je la pompe tout le temps, quoi qu'il en soit, hypoglycémie, je me resucre,
oui,
j'attends pas.
Ça,
la
malheureusement,
fin de la journée,
ah oui, ça, faut pas se mettre en danger.
C'est strict, ça, il
tout,
faut se
resucrer. C'est non négociable.
C'est non négociable. Hyperglycémie avec acétone, pareil, je fais une dose d'insuline et je mange et,
bien
et,
sûr,
et
la
je
pompe,
me repose. Hein.
La pompe peut ne pas fonctionner. Donc, ramadan ou pas ramadan, elle peut se boucher. Le cathéter peut se couder. Donc, on peut être en hyper. Juste parce que la pompe fonctionne pas, alors là c'est pire que tout, parce que on se retrouve, il faut 300 maximum cétones.
Ok.
Le problème, c'est que dans ces cas-là, le piège classique, c'est j'ai pas mangé, j'ai de la cétose de, j'ai de la cétose de jeûne, c'est pas grave, c'est le ramadan, c'est normal.
Oui, mais ça c'est avec la glycémie normale.
Déjà, tout à fait. Donc exactement, c'est la réponse.
C'est ça qui va donner
c'est
la différence.
C'est-à-dire qu'on
n'a
pas d'hyperglycémie quand on a une cétone. Donc, mais j'ai déjà entendu. Mais c'est de l'acétone, c'est normal, quand on ne mange pas, on a de l'acétone. Et c'est vrai, on a de l'acétose de jeûne. C'est-à-dire quand on n'a plus de sucre, dans le, en tout cas très peu, le corps trouve un autre moyen, c'est de fabriquer de l'acétone. Ce qu'on appelle l'acétose de jeûne. Mais, comme tu le dis, pas en hyperglycémie.
Voilà, donc de toute façon, il n'y a pas de raison de chercher l'acétone quand on est en normoglycémie.
Exactement.
On est d'accord. Ok. Et pour, donc, pour nos petits jeunes qui ne jeûnent pas.
Alors, ceux qui ne jeûnent pas, effectivement, ceux qui sont contents de ne pas jeûner, eh ben, il faut quand même s'en occuper. Pourquoi ? Parce que, eh ben, à la maison, bah, il n'y a plus autant de nourriture qu'en dehors du diabète. Et donc, ils sont amenés à grignoter.
Oui, des fois, il n'y a pas de repas à midi, par exemple.
Il n'y a pas de repas à midi.
Parce que les parents, ils ont veillé tard.
Et puis qu'ils n'ont pas. Et puis que parfois, même les plus puristes disent bah, il ne faut pas donner à manger à un adolescent, par exemple. Donc, bref.
D'accord.
Il y a tout un tas de raisons qui font que les repas sont moins abondants et l'enfant a moins accès à la nourriture en journée.
Ou peut-être plus accès à la nourriture rapide, du coup, et aux sucreries.
Exactement, et au grignotage. Donc tout ça peut être des facteurs d'instabilité. Autre facteur d'instabilité, c'est le soir. Donc il peut, par exemple, je ne sais pas si l'heure de rompre le jeûne, c'est 21h, il peut très bien manger à 19h,
remanger à 21h.
Il a tout gagné, en fait. Exactement, il se retrouve avec... et donc... c'est pas facile du tout
d'équilibrer l'insuline. Dans ce cas-là, vaut mieux qu'il attende le dîner avec tout le monde.
Exactement, mais c'est une attention. En tout cas, il faut être clair dès le début avec la famille, avec la personne qui cuisine. En général, c'est la mère, pas toujours, mais c'est souvent la mère.
Bien
et
sûr.
Lui dire que là, il faut être clair avec ça. Il faut qu'il ait ses repas. Il faut qu'il ait les glucides dont il a besoin.
Il ne faut pas qu'il soit l'oubli, entre guillemets, pendant ce mois-là.
Et tout à fait, il n'y a pas de raison qu'il soit déséquilibré pendant cette période.
D'accord, ok. Donc pour celui qui jeûne, on surveille, on accompagne, et hypo, on se ressuscite, hyper, on fait les corrections, on fait ce qu'il faut.
Tout à fait.
Et celui qui ne jeûne pas, bah, on n'oublie pas, on lui donne un repas quand même. On lui donne tous ses repas pour éviter les grignotages.
Absolument, et on fait attention
au surplus d'alimentation.
Exactement, et aux pâtisseries qui sont très abondantes.
Au double repas, et tout à fait. Ou les dattes et les figues qui se promènent aussi beaucoup pendant ce mois-là.
Tout à fait. Ça, c'est, en gros, ça va avec les pâtisseries, effectivement. Ouais. Les couchers tardifs,
les décalages horaires.
C'est autant vraiment. Mais vraiment, le mot-clé, moi, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le ramadan ne se prépare pas le jour du ramadan.
C'est toujours en amont.
Il faut le préparer en amont, établir des règles, établir des stratégies de surveillance.
On en parle en consultation, exactement. On donne des conseils. Et puis,
tout à fait. Et quitte à prévoir des rendez-vous téléphoniques, faire des points réguliers pour adapter le débit de base, qui ne doit pas être fixe, encore une fois, au fil du ramadan, on se retrouve avec des réserves en sucre de moins en moins importantes et donc un risque d'hypoglycémie de plus en plus élevé.
Ok, très bien. Bon. Ben, en tout cas, n'hésitez pas, il ne faut pas hésiter à nous contacter et puis on fait le point avant. Pendant le ramadan et après, parce qu'il faut remettre les bonnes doses aussi après.
Remettre les bonnes doses, bien sûr, tenir compte des leçons du ramadan pour les ramadans futurs.
Oui.
Effectivement, il faut faire un débriefing.
Il faut toujours. Ok, bon, bah parfait.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.